Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Démarrage aujourd'hui de la 9e édition du festival Amani à Bukavu. Cet événement qui prône la paix et le vivre ensemble se tient pour la toute première fois au chef-lieu du Sud Kivu. Cette édition s'articule sur le bénévolat au cœur de la communauté. Le directeur du festival Amani affirme que la culture a un rôle important à jouer au sein de la communauté. Guillaume Bissimoa est l'invité de ce journal. Province du Tanganyika, l'Institut du Lac, l'une des grandes écoles de l'État à Kalemie, menacée de disparition. Les eaux du lac Tanganyika se trouvent désormais à moins de 10 mètres de cette école. Nous faisons le point dans ce journal avec Paulin Munanga. Madame, Messieurs, bonjour. La 9e édition du festival Amani démarre aujourd'hui à l'Athénée d'Ibanda à Bukavu. Cet événement qui prône la paix et le vivre ensemble se tient pour la toute première fois au chef-lieu du Sud Kivu, ce après la 8e édition organisée à Goma, son fief. Cette 9e édition s'articule sur le bénévolat au cœur de la communauté. Sur place, un engouement est constaté, tel que nous le décrit Rachel Kiesembango. Vous êtes sur place. Bonjour. Dites-nous, vous êtes sur le site où se déroule le festival, qu'est-ce qui se passe actuellement?
Oui, Belinda, effectivement, je suis présentement à l'Athénée d'Ibanda site où se déroule cette 9e édition du festival Amani. Nous pouvons constater les stands mis en place par le festival. Nous avons d'abord l'espace associatif où les organisations de Nations Unies ont leurs stands, notamment le PNUD, l'UNICEF et les sections de la MONUSCO, mais également d'autres associations locales. Il y a aussi l'espace entrepreneuriat où les différents entrepreneurs exposent leurs produits. L'espace enfant n'est pas en reste. Plusieurs jeux ont été mis en place pour recevoir 60 enfants accompagnés de leurs parents. Une salle a été réservée pour le panel sur les différents thèmes, le vivre ensemble, la cohabitation pacifique et les développements socio-économiques. Il y a également l'espace VIP réservé pour les différentes autorités, la salle de presse pour les médias, mais également l'espace restaurant tenu en grande partie par la Brassimba. Les activités sur scène débutent à 13h30 de Bukavu avec l'artiste Kazembe Vianney qui fait de la musique traditionnelle. Entre-temps, certains artistes répètent sur la scène du festival.
Dites Rachel, il y a aussi les équipes de Radio Okapi sur place.
Oui, Belinda, les équipes de Radio Okapi et Bana Okapi se trouvent déjà sur place pour des productions live et en différé au menu Okapi Service, Métissage, Urban Scène, Pona Bana, Bana Groove et Bana Message. Okapi Service a été diffusé ce vendredi à partir de 11h05 heure de Bukavu, une émission axée respectivement sur l'urbanisation à Bukavu et l'apport de la musique dans le vivre ensemble. Pour rappel, la Radio de la Paix accompagne depuis son lancement ce festival qui prône les valeurs de la paix et valorise l'entrepreneuriat des jeunes. De l'Athénée d'Ibanda, à Bukavu, Rachel Kessé, Radio Okapi.
Merci Rachel, on vous retrouve dans nos prochaines éditions. Pendant ce temps, au Nord Kivu, une accalmie relative s'observe ce vendredi depuis la matinée dans la région de Mubambiro, Sake, Kingi et alentour, au sud du territoire de Masisi. D'après des sources concordantes dans la région, les activités ont repris comme d'habitude à Sake et Mubambiro et certaines familles commencent à regagner progressivement leur maison. Cependant, indique la société civile, la situation reste incertaine. Toute l'attention des habitants reste tournée vers la ligne de front à environ 15 km de Sake. Le point avec vous, Piro et la Menji.
Selon plusieurs témoignages recueillis ce matin sur l'axe Sake-Mubambiro dans le groupement Kamuronza, la situation est redevenue calme après la panique observée hier toute la matinée dans cette partie. Les activités socio-économiques et les trafics se déroulent normalement ce vendredi. Selon nos sources, aucun combat n'a été enregistré depuis le matin. Les FARDC sont à Kingi, à 15 km environ de la cité des Sake, tandis que l'ennemi est situé vers Kiroliroué et dans le parc de Virunga, d'où il a essayé de déborder hier pour attaquer les FARDC sans succès. Nos sources ajoutent que ces rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise seraient en train de recevoir des renforts en provenance de Nyiragongo en passant par le parc de Virunga pour attaquer à Karinga, une entité située entre le parc et le groupement Kamuronza. Par ailleurs, dans les territoires de Rutshuru, la situation demeure également tendue dans la partie Bukumbo, dans la chefferie de Buito. Les rebelles du M23 ont occupé depuis ce matin Bukumbo, centre tandis qu'ils renforcent leur position distribution également vers Kaomiro et Mozambique. Leur objectif, d'après nos sources, c'est de couper la route à Katiru à partir de la rivière Rwindi. Le mouvement des populations craignant cette menace sont observés surtout à Kibirizi.
Direction la province du Tanganyika, je vous l'ai dit dans les titres. L'Institut du Lac, l'une des grandes écoles de l'État dans la ville de Kalemie, est menacée de disparition par les eaux du lac Tanganyika. Désormais, les eaux se trouvent à moins de 10 mètres de cet établissement scolaire. Une partie du bâtiment de cette école est déjà engloutie dans l'eau. Un reportage de Paulin Munanga.
Des centaines d'élèves de l'Institut du Lac suivent les cours en contemplant le lac Tanganyika. Les eaux se sont rapprochées dangereusement de l'école. D'après des sources sur place, il y a quelques années, les eaux avaient déjà avalé une partie du bâtiment qui était constitué de 5 classes. Plusieurs sources renseignent qu'il y a plusieurs années, les eaux du lac Tanganyika étaient à plus de 800 mètres loin de l'école. À l'époque, les responsables de l'école lançaient des cris de détresse aux autorités tant nationales que provinciales, mais sans succès. Sur place, nous avons appris que des délégations des autorités venues de Kinshasa et de Kalemie ont défilé à cette école pour se rendre compte de la situation. Elles ont promis de trouver une solution, mais sans suite. L'Institut du Lac s'appelait anciennement Athénée Royale. Elle fut construite par les colonisateurs belges en 1955. C'est l'une des plus vieilles écoles de la ville de Kalemie. Des sources à Kalemie signalent que l'unique option qui reste est la délocalisation de cette école dont les bâtiments ne peuvent plus être sauvés. Kalemie, Pole Munanga, Radio Okapi.
Du côté de la province de la Mongala, des enseignants de plusieurs institutions d'enseignement secondaire situées dans les différents villages du secteur de Mongala Motima, territoire de Lissala, ne sont toujours pas payés. C'est le cas des enseignants de l'Institut Mondelenge, conventionné catholique, situé au village du même nom, à 80 km de Lissala, sur la route de Businga. D'après le préfet de cet institut, c'est une situation qui ne lui permet pas de bien remplir sa mission. Notre envoyé spécial dans le territoire de Lissala a fait le déplacement de Mondelenge à la rencontre de ce préfet. Voici son reportage.
Nous avons une grande difficulté, c'est celui de gérer une partie des enseignants qui sont payés et d'autres qui ne sont pas. Ça nous coûte des yeux de la tête.
Ainsi se plaint César Malozi Yedimba, préfet de cet institut. Pourtant, d'après ses dires, il a fait rapport plusieurs fois à la hiérarchie.
Il nous dit qu'on est des apaisements d'ici mois d'avril et la situation est... Alors pour nous, nous comprenons, puisque c'est une situation où on parle souvent comme ça. On a parlé des mois de juillet, mois d'octobre, mois de janvier, et voilà pour le moment mois d'avril. Est-ce que ça sera... Pour nous, ça reste une situation utopique.
Même ces initiatives pour aider ces enseignants non payés sont interdites.
Ici, comme les parents ne payaient pas, les enseignants vivaient des interventions chapitres. D'habitude, on allait faire ne fût-ce qu'un petit chat pour lui, pour qu'il puisse survivre. Mais pour le moment, on a empêché ça, qu'on ne puisse pas voir un élève avec la machette à la forêt. Voilà pour juste les raisons, ces enseignants-là souffrent encore davantage.
Notons que cet institut compte 130 élèves qui viennent des villages environnants, dont les plus éloignés font 9 km à pied chaque matin. Depuis Lissala, de retour de Mondelenge, Jacques-Yves Molima, Aouta, Radio Okapi.
Merci Jacques-Yves Molima et bon séjour à Lissala. À quelques jours de l'investiture à la présidence annuelle tournante de l'Union africaine, le président comorien a accueilli hier à Moroni son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour cette première visite officielle de son homologue congolais dans l'État insulaire, le président Azali Assoumani et son épouse ont fait le déplacement de l'aéroport international Prince Ibrahim de Moroni pour accueillir son hôte de marque Félix-Antoine Tshisekedi et la première dame Denise Nyakeru. Les deux chefs d'État ont eu un entretien en tête-à-tête au palais présidentiel de Moroni. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a assuré son homologue de tout son soutien durant ce mandat. Devant la presse, les deux chefs d'État ont dit avoir partagé l'expérience congolaise de la présidence de l'Union africaine et évoqué la perspective d'un affermissement des relations bilatérales entre leurs pays. Félix-Antoine Tshisekedi et Azali Assoumani ont aussi affirmé avoir évoqué les grands enjeux africains durant la présidence comorienne de l'Union africaine, notamment la situation sécuritaire préoccupante à l'est de la RDC consécutive à la guerre d'agression menée par le Rwanda. Notez que le président Azali Assoumani devra succéder à ce poste au Sénégalais Macky Sall.
éviter les tracasseries et complaisances dans le traitement des dossiers judiciaires et multiplier des inspections des amigos pour éviter des cas d'arrestation arbitraire, c'est parmi les grandes lignes de conduite en 2023 présentées par le procureur général près la cour d'appel du Kwilu. Cette présentation a eu lieu au cours de la première réunion qu'il a organisée mercredi au gouvernorat du Kwilu à Bandundu à l'attention des magistrats et procureurs venus de tous les coins de cet essor. Bernardin Niami explique dans ses propos recueillis par Irène Boma.
Présentation des grandes lignes des services pour l'année nouvelle. Les magistrats doivent se comporter tant dans sa vie publique que privée de manière à préserver et à renforcer la confiance du public envers l'État et à améliorer son image de marque. Éviter d'être au service en retard, être à temps à l'audience, éviter de fréquenter des lieux publics, bars, boîtes de nuit et consorts. Le magistrat n'a pas de vie privée. Agir vite aux correspondances de la hiérarchie. Respecter les observations de la hiérarchie. Éviter de transmettre les copies des lettres illisibles à la hiérarchie. Lisez les correspondances attentivement avant de signer. Verser chaque fois un montant au trésor public et garder les bordereaux de Gérard et Ban. Éviter les tracasseries ni complaisances dans le traitement des dossiers judiciaires. Transmettre les rapports mensuels des cabinets de vos magistrats et d'inspection des amigos et prisons. Multiplier les inspections des amigos pour éviter les arrestations arbitraires, surtout des cas de prescription. Ceux qui vont travailler sous ma direction cette année, qui que vous soyez, je vais frapper avec les gros marteaux. Vous devez bien travailler.
Révision du fichier électoral. Le président des étudiants congolais vivant en Afrique du Sud salue l'initiative de la centrale électorale d'enrôler pour la première fois les Congolais de la diaspora en choisissant l'Afrique du Sud parmi les 5 pays concernés. Karl Kabwe se félicite également de la manière dont cette opération se déroule à l'ambassade de la RDC à Pretoria, tout en parlant de son implication dans ce processus. Karl Kabwe indique que la plus grande difficulté pour la communauté étudiantine est le déplacement d'autres villes vers Pretoria. Le président des étudiants congolais vivant en Afrique du Sud s'exprime au micro de notre envoyé spécial Grâce Amzati.
On se sent impliqué vraiment dans ce processus. La difficulté est que l'Afrique du Sud, c'est un grand pays. Et il n'y a qu'un seul centre d'enrôlement, malheureusement. C'est difficile de demander à tous les étudiants de venir se déplacer pour venir s'enrôler à Pretoria, les étudiants qui sont à Cape Town, à Durban, donc partout dans tous ces coins-là. Il faut être réaliste. On en a parlé avec l'honorable Patricia Seay, qui est rapporteure de la CENI. Elle nous a dit que malheureusement, c'est la loi. On ne peut pas ouvrir des centres d'enrôlement dans d'autres villes. Mais bon, c'est une première, on ne sera pas aussi trop exigeant avec la République démocratique du Congo ou la CENI. On est obligé d'être quand même là, donc on va apprendre de cette expérience pour faire mieux la prochaine fois. Et concernant les étudiants, la majorité des étudiants remplissent les critères. Donc le premier, c'est d'avoir un passeport et puis un visa valide. La majorité ont le visa d'études. À notre niveau, nous travaillons dans la sensibilisation, rappeler aux étudiants que c'est un devoir patriotique. S'ils veulent que les choses changent demain, ils doivent s'impliquer en s'enrôlant et en choisissant le candidat qu'ils estiment qui changerait les choses.
Entre-temps, il ne reste plus que 7 jours pour la fin de la prolongation de l'enrôlement dans la première ère d'opération. À Mbandaka, des voix s'élèvent pour inviter les jeunes en particulier et la population en âge de voter en général à se faire enrôler massivement, ce malgré les difficultés persistantes liées à la logistique, la technique et à l'accessibilité, a dit le président fédéral du parti Nouvelle Alliance à l'Équateur, car le nombre élevé d'électeurs offrira beaucoup de sièges et par conséquent beaucoup de représentants qui vont défendre les intérêts de la province au niveau des instances décisionnelles du pays, a dit Blaise Moïse Bobois au micro de Paul-Richard Malengela.
Nous avions eu d'abord des rumeurs et descendant sur terrain, le président nous a dit ouvertement que le taux est trop bas par rapport à 2018. Aujourd'hui là, nous devons toujours faire un effort parce qu'il nous reste 7 jours. Si la population pourrait accepter notre message de s'enrôler, ça va nous aider. J'avais bien suivi la jeunesse lorsque le président était venu ici. Il réclamait des sièges au niveau du gouvernement central. Comment nous aurions assez d'autorité au niveau national si nous n'avons pas aussi assez de sièges au niveau national? Nous avons besoin vraiment de sièges. Et les sièges là, nous aurions par rapport au taux des enrôlés. C'est ça ce qui fera la force même de l'Équateur. Alors profitons-en. Nous voulons les changements, nous voulons les développements. Et nous n'allons pas recevoir tout cela dans le néant. Il faut d'abord s'enrôler, choisir des gens qui vont défendre l'intérêt, que ça ne soit pas seulement des députés nationaux et un ou bien deux sénateurs. Non, il faut avoir 10 députés et pour avoir avoir ces nombres de députés, il faut d'abord commencer par nous enrôler massivement. Et il ne nous reste que 7 jours seulement.
Actualité internationale.
Nous sommes au Malawi. L'épidémie de choléra en cours depuis mars 2022 a fait 1210 morts et près de 36 950 cas ont été signalés selon l'OMS qui demande des interventions fortes pour éviter une détérioration de la situation. Le bilan des séismes qui ont frappé lundi la Turquie et la Syrie a dépassé les 21 700 morts.